Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, j'espère que tu vas bien. On va parler de Tenshin Nasukawa versus Takeru, donc ça s'est passé le week-end dernier. Vous n'êtes sans doute pas au courant de ce combat-là, mais c'était énorme tout simplement. C'est peut-être l'un des plus grands combats, très certainement l'un des plus grands combats de tous les temps. En tout cas, en kickboxing, c'était le combat de l'année entre les deux japonais. Pour vous dire, en termes de billetterie, on était à 25 millions de dollars, le record. À l'UFC, c'est Conor McGregor contre Eddie Alvarez lors de l'UFC 205 à New York, 17 millions. 17 millions, rendez-vous compte. Swear.
Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
Et donc oui, pour poursuivre du côté des chiffres, après on va un petit peu se concentrer sur ce qui s'est passé pour ce combat-là, qui était véritablement très 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 important pour le kickboxing. Donc il y a eu 56 399 billets vendus, 59 000 personnes au total au Tokyo Dome, et surtout, et c'est ce qui est important, 500 000 pay-per-view vendus au Japon, ce qui est tout simplement énorme, et surtout pour un combat qui a mis des années et des années et des années à se faire, c'est encourageant parce que même si là aujourd'hui on sait que Tenshin Nasukawa va partir en boxe anglaise, le fait que ça a été un véritable succès financier, ça n'exclut pas une revanche down the road, en tout cas, c'est ce qu'on souhaiterait nous, parce que, bon, sur le papier, moi aussi j'ai trouvé ça très surprenant que ça ne se dispute qu'en 3 rounds, je sais pas ce que t'en as pensé toi, Rust.
Bah c'est clair, c'est-à-dire que pour quelque chose qui était attendu depuis littéralement 2015, c'est-à-dire que depuis 2015, en fait, Takeru et Tenshin, ce sont les deux prodiges qui sont dans des catégories de poids équivalentes et qui sont censés s'affronter. Et c'est vrai que pour quelque chose qui était autant anticipé que ça se fasse que en 3 rounds ou 3 minutes, c'était presque un crime. Hein. Franchement, c'est terrible. Donc, bah, déception, évidemment, oui. Parce que c'était aussi court. Après, c'était action non-stop ou presque sur les 3 rounds. Il y a même eu un knockdown de Tenshin au premier. Mais effectivement, c'est dommage que ça se fasse entre guillemets aussi tard, même si ça allait, parce que bon, bah, Tenshin a 23 ans et Takeru en a 30, donc ils sont pas. Tu vois, c'est pas comme s'ils avaient. C'est pas Pacquiao Mayweather où ça s'est fait vraiment beaucoup trop tard, donc ça allait. Mais c'est dommage que ça ne se fasse que maintenant, mais c'est parce qu'il y a eu énormément de tension entre les différentes promotions, parce que du coup le père de Tenshin c'est aussi celui qui gère le Rise, il y avait des problèmes avec le K1, ça pouvait se faire que sous certaines bannières, celle du Rising, etc. Enfin, c'était un petit peu le bordel, mais c'était vraiment un truc de ouf, hein. C'est-à-dire que Tenshin, s'il disait là, en gros au Rising à un moment donné, il a dit en direct et il a bien fait, il a bien demandé avant le Rising, ce sera bien en direct, ok. Et du coup, après un combat qu'il a gagné au Rising, quand il a su que c'était en direct et qu'on pourrait pas le cutter, eh ben en gros il a dit moi je suis chaud pour Takeru, est-ce que vous êtes chaud pour Takeru, et tout public a fait ouais, mais sauf qu'en fait, bah, comme il y a énormément de problèmes entre les promotions et que ça se tire dans les pattes depuis des années, il y a même bah, du coup le K1 qui a traîné en justice Tenshin et son père en mode mais vous avez pas le droit de faire ça, c'est déloyal, parce que en gros bah du coup il fallait que tout le monde voulait le combat, mais comme tout le monde savait que ça allait faire un bif monstrueux, bah tout le monde tirait la couverture à soi en fait. Donc on peut presque s'estimer déjà heureux que le combat ait eu lieu. Bon. C'est déjà ça. Il a eu lieu, il a tenu toutes ses promesses, mais c'est vrai que c'est dommage que ça n'a été qu'en 3 rounds, surtout quand on sait qu'effectivement, bah, comme on l'a vu par exemple avec Rod Tang contre Tenshin, bah, c'est intéressant aussi quand ça va dans les rounds un peu plus en eau profonde. Mais voilà. Bah, maintenant, est-ce que du coup, tu veux qu'on fasse un récapitulatif du coup de pourquoi est-ce que c'était presque le combat de la destinée en kickboxing?
Ouais, carrément. Et puis juste dernier point au niveau des chiffres, c'est qu'on était à 2,5 millions de dollars minimum de salaire garanti pour chaque athlète. Donc ça vous permet aussi de vous rendre compte de l'importance qu'avait ce combat-là. Ce qui est quand même dingue, c'est que on n'a pas l'impression que ça ait dépassé les frontières japonaises, alors que, ok, faut être un fan un petit peu hardcore, mais c'était quand même très 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 important.
Mais c'est ça qui est fascinant en fait avec le Japon, et j'ai l'impression qu'on peut aussi parler un petit peu comme ça de la Corée du Sud, un petit point forte raison, parce que disons eux par rapport au MMA, c'est surtout ça, ils ont le Road FC, mais c'est pas du tout aussi médiatiquement éclatant, mais dans le sens où leurs stars, les stars sud-coréennes, sont vraiment des méga stars en Corée du Sud. Et vraiment, ils sont gigantesques. Genre Korean Zombie et Doo Choi en Corée du Sud, ce sont des giga, giga stars, quoi. Et au Japon, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, ça, bah, ce combat-là, qui était donc ce appelé The Match, c'était ça la dénomination officielle, bah, effectivement, on n'en a quasiment pas entendu parler autre part dans le monde, mais c'est pas grave, en fait, parce que le Japon se suffit à lui-même. C'est tellement un... Oui, ça ne se passe qu'au Japon, mais le Japon est tellement énorme. C'est-à-dire que bah, déjà, ils sont, je sais plus combien, 100 millions, un truc comme ça, peut-être 80 millions, je sais plus. Et c'est vraiment un pays qui a cette culture martiale-là. Donc, tu vois, bah, le nombre de pay-per-view vendus prouve qu'ils n'ont même pas besoin d'aller voir ailleurs pour que ce soit des dingueries absolues en termes de chiffres. Donc, en fait... Oui, c'est dommage dans le sens où nous, occidentaux, on n'en a pas entendu plus parler parce que ça aurait été vraiment bien qu'il y ait une plus grosse hype, ça aurait été bien que tous les gros médias, même américains, en parlent, etc. Mais bon, ce sont deux Japonais, ce sont des petits pois, ça se passe au Japon et dans un sport qui n'est pas forcément le plus médiatisé. Donc, on ne pouvait pas non plus en espérer beaucoup.
Pourquoi est-ce que ce choc était si important ?
Eh bien... Parce que les deux protagonistes sont, tu vois, c'est vraiment, c'est Sangoku et Vegeta. C'est-à-dire que depuis 10 piges, en gros, il y a deux combattants dans les catégories, en gros, en moins de 60. C'est-à-dire que ça peut être moins de 55, moins de 58, moins de 60. Parce qu'ils ont fait un petit peu, ils ont bougé un petit peu dans ces catégories-là. Depuis, genre, environ 2015, il y a deux combattants au Japon qui sont la tête et les épaules au-dessus du reste de la planète. Mais vraiment de la planète. Ce sont de monstres qui éclatent tout le monde. Et en fait, depuis 2015, alors que Tenshin avait 17 ans en 2015, ben, ils s'appellent l'un l'autre parce que du coup, comme ils démontent tout le monde à côté de la concurrence, ben, en fait, à un moment donné, tout le monde a envie de voir, ok, mais s'il y a ces deux-là et le reste du monde, ben, qu'est-ce que ça donne l'un contre l'autre, en fait ?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et ce qui a rendu ce combat aussi incroyable, c'est que bah déjà Takeru, ça fait depuis 2012 qu'il n'avait pas perdu. Ça faisait un peu plus de 10 ans, genre quelques jours de plus que 10 ans qu'il n'avait pas perdu depuis ses 20 ans. Il a vraiment rasé la catégorie. Au pound for pound, c'était lui le chef. Et un style extrêmement spectaculaire. Il encaissait beaucoup, mais le mec était immétable KO. Enfin, c'était absolument un rocher. Un jeu qui était ultra technique, hein, basé sur une jambe avant, mais tu sais, la jambe avant où il y a la fameuse triple attaque, où quand il lève sa jambe avant, tu sais jamais si ça va venir en front kick, en middle, en low kick ou en high kick. Et il se servait de ça pour en gros mettre sur une rampe de lancement sa boxe anglaise qui était elle-même absolument létale, surtout avec ses coups au corps, ses combinaisons, etc. Donc ça, c'est Takeru qui était un combattant ultra spectaculaire, qui grosso modo voilà, était vraiment... sans aucun conteste au-dessus de tout le monde dans les catégories de moins de 60. Et à côté, en fait, avait vraiment le prodige. Tenshin Nsukawa, c'est un gars, à 15 ans, il est passé pro. Et avant ça, son record amateur, c'est 105 victoires, 5 défaites et je crois que c'est une égalité. Donc, depuis qu'il a 5 piges et qu'il avait commencé le Kyokushin, Tenshin, tu pouvais pas faire plus prodige en termes de ce que la personne avait accompli. Quoi qu'il fasse, il a toujours surclassé tout le monde en étant, mais vraiment, beaucoup plus jeune que tout le monde. Il passe en pro à 15 ans. À 17 ans, il affrontait déjà les meilleurs boxeurs thaï du monde et il les mettait KO. C'est-à-dire que, alors, le nom, j'ai pas envie de les écorcher, donc je les ai notés. Il a affronté à 17 ans. Et 9 mois, Wang Shalong Pekka Senshai, qui était champion du Lumpini, donc c'est ce qui se fait de mieux en termes de Muay Thai en Thaïlande, et il était champion régnant à ce moment-là, il l'a mis KO, Et ensuite, quelques mois plus tard, il affrontait, parce que du coup, les tailles, enfin, il y a toujours une petite rivalité, en fait, en termes de pieds-points, quand il y a des Japonais et des tailles. Et du coup, les Thaïlandais étaient en mode, ah putain, ok, bon, on lui envoie un autre tueur à gages. Il lui envoyait donc Amnat Ruen Roeng. Et en gros, lui était non seulement champion du Lumpini aussi, mais champion IBF en boxe anglaise en flyweight. C'est-à-dire que c'est, tu peux pas faire plus dangereux que ces mecs-là en pied-point. Et il l'a mis KO encore une fois, alors qu'il avait, bah là, il devait avoir 18 ans. Il a un record en pied-point de maintenant qu'il a battu Takeru de 44-0, Tenshin, et à 23 ans. C'est-à-dire que ses accomplissements, ça n'a presque aucun sens. C'est presque du jamais vu, en fait, en termes de, comment est-ce qu'on pourrait dire? Parce que je vais pas réutiliser le mot prodige à chaque fois, tu vois, mais il était tellement, tellement précoce dans tout ce qu'il faisait, que bah, il en est arrivé à prendre sa retraite du kickboxing à 44-0 à 23 ans, dont 30 KO, et parce qu'il a juste fait le tour du game, en fait. Et donc, pour revenir à Takeru versus Tenshin, maintenant qu'on vous a présenté les deux, bah, je pense que du coup, là, vous pouvez prendre la mesure, et en plus, maintenant qu'on vous a dit du coup que au Japon, ben, même les combattants étrangers qui avaient beaucoup de succès, qui étaient spectaculaires au Japon, devenaient des demi-dieux. Bah, vous imaginez des mecs du cru. Donc, Tenshin et Takeru, ils sont vus, mais comme presque, enfin, c'est, je vais pas dire des divinités, effectivement, mais c'était vraiment des giga stars qui étaient les meilleurs au monde. Donc, pas que du Japon, tu vois, les meilleurs au monde dans leur domaine. Et on attendait le choc, du coup, depuis 2015. Et c'est pour ça que c'était attendu, mais comme l'était pour le monde occidental en général, Mayweather-Pacquiao, sauf que lui, il a eu lieu trop tard, quoi.
Et ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a eu le combat Tenshin contre Mayweather. On a beaucoup, j'ai vu dans les posts qu'on a fait, qui étaient en mode, c'est pas lui qui avait perdu contre Mayweather. Bon, c'était pas sa discipline. Face à Mayweather qui pesait 20 kilos de plus et qui est l'un des plus grands de tous les temps en boxe anglaise, donc forcément très compliqué pour Tenshin Nasukawa. C'est des conditions qui étaient pas du tout simples pour lui. Il y avait même pas eu de pesée pour vous dire lors de l'événement. Concernant le combat en lui-même, donc il y a eu un knockdown qui a pesé très lourd dans la balance, n'est-ce pas Big Rusty?
Ouais, un knockdown, un superbe contre de Tenshin. Mais en fait, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est... En réalité, même si ça fait un peu chier de le dire, parce que du coup, on a vendu le choc, mais en réalité, les gens qui avaient suivi un petit peu le combat de près se doutaient de la manière dont ça allait se passer, dans le sens où Tenshin est gaucher. Gaucher est ultra dynamique en anglaise et avec des excellents déplacements. Et comme on a, en fait, lui n'est pas gaucher, il est orthodoxe, Takeru, et comme on a parlé de sa jambe avant qui était une de ses armes de prédilection, bah en fait, quand vous avez des gardes inversés, quelqu'un qui utilise beaucoup sa jambe avant, c'est beaucoup plus compliqué parce que la cible, si c'est les front kicks pour le corps, etc., bah en fait, c'est comme la garde est inversée, vous pouvez pas taper aussi facilement dans le bide, vous pouvez pas taper aussi facilement à la tête parce que c'est pas, comment dire, c'est pas le côté le plus pratique lorsque vous êtes le kicker de jambe avant et que c'est une garde inversée. Et on avait vu déjà avant ça, j'ai oublié le nom de l'adversaire, mais Takeru avait déjà affronté un gaucher qui avait un petit peu le même genre de compétences que Tenshin. Il avait galéré de ouf avant de réussir à le mettre KO, mais avant de réussir à le mettre KO, il avait salement galéré parce que ce style ne... On dit souvent que ce sont les styles qui font les combats. Bah celui-là, c'était genre le pire style possible pour Takeru. Et c'était exactement le genre de posture et le genre de compétences que possédait Tenshin. Donc, il y avait moyen que Takeru mette KO Tenshin, bien sûr, mais bon, ceux qui connaissaient un petit peu les profils des deux se doutaient que Tenshin allait probablement réussir à dépasser techniquement Takeru, et c'est ce qui s'est passé.
Ben voilà, Big Rusty, merci beaucoup. On se retrouve très très vite pour nouvelles aventures. Big shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Moins 39% sur tout my protein avec le code la sueur. See ya! I'm fucking coming for you! Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.